Dissonance.
Trois fois par mois, pendant une heure, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des voix dissonantes et de découvrir des parcours de vie qui portent un éclairage différent sur nos vies, nos luttes et nos espoirs.
Dissonance.
Joseph Fula sur Radio Centrafrique.
On photographie bien qu'avec le cœur, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on essaie, parce que j'y arrive jamais. On ressent, nous, on est sur le terrain. Je sais qu'un photographe qui a la même chose dans sa tête qu'un chasseur, qui veut un trophée, la relation ne se passe pas. Mais si on y va en ami, l'animal le sait.
Aujourd'hui, nous partons sur l'Aubrac à Nasbinals, en Lozère, pour y retrouver Renaud d'Angreville, à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Souffle d'Aubrac, qui vient de paraître aux éditions Florine.
Renaud d'Angreville, c'est un animal transformé en homme, dont les mots sont ses outils, son regard une lumière et le partage sa philosophie.
Aujourd'hui, dans Dissonance, il sera question d'un grand-père nommé Achille, d'apprentissage de la vie et de la transmission.
Renaud, avec humilité et passion, nous parle de l'intelligence de la nature et de ce moment si particulier où l'animal se décide à se laisser photographier.
Dans Dissonance, il sera question des films auxquels a participé Renaud, de ses livres, de ses photographies, de renards, de loups aussi, et de beaucoup de silences, notamment de celui qui permet d'entendre le souffle d'Aubrac. Son éditeur, Philippe Galmiche, interviendra en fin d'émission.
Il est temps de rentrer dans la maison de granit où vit Renaud, de fermer la porte et, alors que la sisampe souffle fort sur l'Aubrac, de se poser le temps de l'émission pour suivre Renaud d'Angreville sur les traces de la vie sauvage.
Dissonance
avec
Renaud d'Angreville
sur Radio Centrafrique.
On connaît le photographe animalier, celui qui a participé à divers grands films. On connaît aussi l'auteur, l'écrivain. Et j'aimerais qu'on aille aujourd'hui à la découverte de l'homme. Et on va commencer par Achille, ton grand-père.
Achille, mon grand-père, qui est mon père spirituel au départ, quoi. Achille, c'est un paysan plein de bon sens. Ce qui manque beaucoup aujourd'hui. Et Achille m'a éduqué avec une dizaine de phrases, et c'est tout. Et voilà, c'est ça mon grand-père. Pour citer une toute petite chose, c'était l'anniversaire de ma grand-mère, je devais avoir 6-7 ans peut-être. Et les pommiers étaient fleuris, et je dis au grand-père, ce serait bien de ramener une branche de pommiers fleuris à la grand-mère pour son anniversaire. Il m'explique qu'on ne peut pas faire parce que les fleurs, c'est des fruits plus tard, etc. Et j'ai dit, mais je veux quand même, parce que je devais déjà être une petite tête de mule. Et j'ai dit, ce serait bien, si tu veux pas, je le fais quand même, quoi. Et donc il m'a pris sur ses épaules. Il m'a passé son opinel, j'ai coupé la branche, on a ramené la branche à la grand-mère, qui n'était pas satisfaite plus que ça non plus. Mais enfin, ça fait rien, j'avais coupé ma branche. Et l'automne d'après, en allant travailler à la forêt, on emmenait le casse-croûte, enfin, moi je m'occupais du feu, des petites branches, et donc on avait du lard, du pain et des pommes. Et là, il n'y avait qu'une pomme et il s'est bouffé la pomme. Et je dis, mais quand même, t'as pas pris une pomme pour moi? Et il me dit, mais la pomme, tu l'as mangée ce printemps. Voilà, c'est ça mon grand-père. T'es un paysan. Aujourd'hui, on dirait philosophe. À l'époque, ça ne se disait pas. Mais c'était un paysan plein de bon sens. C'est-à-dire que la leçon, je la sais toujours par cœur, quoi. Donc c'est ça, Achille.
Et c'est à ses côtés que tu as appris la vie? À ses côtés et aux côtés de la nature?
Oui, bah oui, il était paysan, chasseur. Alors à l'époque, il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas tout ça. Donc la chasse, c'était un chien et un bonhomme, c'est tout. Donc j'ai appris ça, et puis la vie, elle arrive. C'est des événements qui suivent tous les jours. Et on parle des événements. Donc c'est ça l'apprentissage de la vie pour moi.
L'apprentissage par l'exemple.
Toujours l'apprentissage par l'exemple. Ouais, pourquoi il fait comme ça, et quand on travaillait à la forêt avec le grand-père, tous les outils pour travailler le bois sont tranchants, donc dangereux pour un enfant, mais on m'a pas donné un truc en plastique, ça n'existait pas ça. Donc la serpe, il m'a d'abord appris, l'école de la vie, c'est ça, c'est apprendre quels sont les gestes, quel sens dans lequel on doit taper sur le bois pour le couper et non pas vers soi. Et voilà, c'est l'apprentissage par l'exemple, tout le temps.
On était avec Achille en Normandie, on est ici à Nasbinal-sur-l'Aubrac. Comment on peut faire le lien?
Le lien, c'est la vie. Et c'est vite fait, c'est que le vent qui circule sur la planète, il est partout. Il est partout et le moindre petit truc, un petit courant d'air en Alaska, va peut-être faire comme une avalanche et faire un typhon en pleine mer après. Voilà, c'est ou l'inverse. Donc non, tout circule tout le temps sur la planète. Les idées, les gens, le vent, l'eau. Donc tout circule tout le temps. Donc Achille, jusqu'à aujourd'hui, Achille est toujours avec moi. Voilà, d'abord génétiquement, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et donc je suis toujours avec Achille. Et c'est vrai que dans ma vie, quand j'ai eu des emmerdes, quoi, des choses qu'on n'arrive pas à résoudre avec l'intelligence, quoi, eh ben j'ai posé des questions à Achille. Quoi. Voilà.
Et mon oncle Abélard m'avait dit, rien n'est plus beau sur terre, dans le ciel, rien n'est plus beau qu'une nuée d'abeilles. Quand il m'emmenait avec lui, dans son royaume, trônait une reine, mère de milliers et de milliers d'abeilles. Dans les ruches, on entend le balai des ouvrières qui travaillent à faire la royale gelée. Vaille que vaille, vaille que vaille. Mon oncle Abélard m'avait dit, rien n'est plus doux dans les choses éternelles, rien n'est plus doux que le parfum du miel. Un enfumoir pour les disperser, sans leur faire mal, recueillir tout le miel amassé, vaille que vaille, vaille que vaille. Mon oncle Abélard m'avait dit, un jour petit, tu t'occuperas d'elle, ce sera toi le roi de mes abeilles. Si tu y mets patience et minutie, si tu y mets beaucoup d'amour aussi, alors petit, quand tu seras un homme, je te confierai les clés du royaume. Abélard est parti. Mon oncle Abélard est parti. S'en est allé dans les cieux vers le ciel, entouré par une nuée d'abeilles. Et je reste seul aujourd'hui. et je reste seul aujourd'hui. Mes ruches vides et mon cœur sans soleil. Mes ruches vides et mon cœur sans sommeil.
Dissonance
avec
Renaud d'Angreville
sur Radio Sainte-Afrique.
Une de tes premières approches de la nature, ça a été la chasse avec un fusil, avant de passer à l'appareil photo.
Oui, je suis passé par la chasse parce que mon grand-père chassait. Donc s'il chassait, forcément, la chasse faisait partie des bonnes choses de la vie. Alors la chasse, à l'époque, c'était une chasse alimentaire. Voilà, je n'ai pas souvenir, ou je ne veux pas me souvenir, qui avait plaisir et meurtre. Je pense qu'on tuait parce qu'il fallait manger. Moi, je suis né juste à la fin de la guerre, donc les temps n'étaient pas faciles. Et chasser faisait un supplément alimentaire qui était nécessaire à l'époque. Et je ne me rappelle pas s'il y avait eu des battues. Je sais qu'il y avait de la chasse à court, mais dans ce que moi j'ai été élevé de la chasse, c'était juste alimentaire. On ramenait un lapin, un lièvre, une perdrix, et c'était toujours un truc alimentaire. Voilà, il y avait certainement le plaisir de chasser, mais... Et donc en vieillissant, j'ai vite analysé le problème de la chasse, c'est-à-dire du plaisir à tuer. Et ça, je l'ai vite éliminé de ma vie. J'ai abandonné le fusil, c'était ça la grosse raison, quoi, pour moi.
Tu aurais pu abandonner le fusil, continuer à traquer les animaux sauvages et à profiter de la nature, sans passer par l'artifice de l'appareil photo.
Ah oui, j'aurais pu, bien sûr. Oui, oui. Mais je suis passé du chasseur au plomb au chasseur en images. La démarche était exactement la même. Donc ça comblait, hein. C'était le patch du fumeur qui arrête de fumer, quoi. Et donc la photo, c'est arrivé comme ça. C'était le trophée, c'était l'image, quoi. C'est une transposition. Depuis, je fais toujours de la photo et j'en suis plus là dans ma tête. C'est juste une démarche et un prétexte à être dehors, quoi. Mais je peux très bien aller dehors sans appareil photo. La paire de jumelles comble tout à fait mon attente. La photo, c'est un truc qui est permanent, c'est-à-dire que toute l'année, on est à la photo. Mais la photo, alors c'est un investissement, c'est un poids, c'est emmerdant d'appareil photo. Ça gêne, un trépied, c'est affreusement lourd. Donc voilà, aujourd'hui, ma démarche, c'est de montrer la beauté de la nature pour essayer de la défendre, parce qu'elle est harcelée de partout.
Tu dis que tu veux la relation avec la nature. Je comprends, avec l'arbre, avec l'eau, tu veux la relation avec l'animal. Mais est-ce que l'animal veut la relation avec l'humain ?
Pour répondre à cette question, l'animal, non, il ne la veut plus. Il ne la veut plus. Ça fait des siècles, ça fait des millénaires qu'on le traque juste pour le bouffer. Et aujourd'hui, pour le plaisir. Et donc, l'animal, c'est non. Et c'est vrai que... Partout où l'homme n'est pas passé, l'animal n'a pas peur de l'homme. Donc quand on sait ça, j'essaye de renouer quelque chose. Et c'est là où on voit l'intelligence de l'animal, c'est qu'il sait très bien faire la différence. Je ne peux pas parler de sa perception, parce que je pense à des choses, mais c'est la perception de l'animal. Aujourd'hui, un animal, il sait si vous chassez, ou si vous êtes juste un promeneur et un photographe. Et je sais qu'un photographe qui a la même chose dans sa tête qu'un chasseur, qui veut un trophée, la relation ne se passe pas. Mais si on y va en ami, l'animal le sait. Et s'il ne le sait pas le premier coup, il le sait le deuxième, troisième ou à la dixième rencontre. Mais il y a un moment, il le sait, l'animal. Il sait que votre odeur, votre attitude, la façon de marcher, etc., il sait que cette odeur-là, elle n'est pas liée au meurtre. Et c'est là où on voit l'intelligence de la nature. Hein. On n'est pas les seuls détenteurs de cette intelligence. Les animaux perçoivent très bien toutes ces choses-là. Ils perçoivent un ver de terre perçoit un tremblement de terre bien avant l'humain. Donc l'intelligence est bien répartie tout le temps.
Donc tu es en train de dire que quand on voit une de tes photos avec un animal qui fixe l'objectif, c'est l'animal qui a décidé de se laisser photographier.
Oui, tout à fait. Donc le dernier livre, j'anticipe, mais le dernier livre où le renard présente l'Aubrac, oui, j'aime bien le renard pour mille raisons. D'abord parce que c'est un mal-aimé, et mon grand-père respectait déjà, lui qui était chasseur, et il était garde communal, garde de chasse communale aussi, et sa petite plaque. Et il disait déjà à l'époque qu'un paysan qui tue un renard sur ses terres n'est pas digne d'être paysan. Et mon grand-père aurait 140 ans aujourd'hui. Donc le discours écolo, on ne parlait pas d'écologie, ça n'existait pas. C'était juste un respect. Un respect et voilà, tuer un renard aujourd'hui, c'est monstrueux, quoi, je trouve. Tuer pour le plaisir, parce que c'est juste le plaisir. L'animal, il pourrit au bord du chemin où vous l'avez tué. Donc c'est stupide. Mais sinon, en photographie, oui, je peux dire que tous les renards que j'ai photographiés, ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord pour la photo.
Dans ton dernier livre, notamment, j'ai en souvenir une page où il y a des portraits de renards, tous différents, avec des regards différents.
Oui, tout à fait, mais c'est vrai que je voulais la mettre, cette page, parce que tous, les renards se reconnaissent très bien. Tous les animaux se reconnaissent.
Et toi, tu les reconnais, tu leur donnes des prénoms. Il y a Volcan, il y a Personnage, il y a Clair de Lune aussi.
Oui, tous les animaux, oui. Oui, d'abord parce qu'ils vivent sur un territoire, et tout au long de l'année, il n'y a pas de mélange. Donc, si nous, on rentre chez le voisin, je sais qui je vais voir. J'arrive sur un territoire, je sais qui je peux voir. Il y a des animaux qui courent plus vite, hein, ceux qui sont coursés dans les battues, tous les cervidés, tout ça, on peut les voir sur d'autres territoires que leur territoire habituel. Mais le renard, très peu. Il a toutes ses caches, il a tout ça, il a son territoire, et je sais le reconnaître, et souvent, ça m'est arrivé, que lui aussi me reconnaisse. Donc il y a une distance qui n'est pas la même que si j'étais un prédateur dangereux, l'homme, et donc il va accepter une certaine distance. Donc c'est comme ça que j'ai fait tous ces portraits. Tous ces portraits ont été faits avec leur accord tout le temps, quoi. J'ai pas volé de photos.
Tu respectes les animaux, eux te respectent aussi, donc. Ils t'offrent ce cadeau.
Oui, je pense, c'est toujours une histoire d'amour, hein, tout est une histoire d'amour là-dedans. Et oui, ils me respectent quand ils me connaissent, oui, ils me respectent, oui, tout à fait.
Ça t'apporte quoi et ça t'a apporté quoi, Renaud, toutes ces longues heures passées sur les chemins, dans les forêts, la nuit, dans les bivouacs, à observer ces animaux sauvages? Un regard différent sur la vie, sur une philosophie qui t'est propre?
Oui, forcément, on apprend des choses. On apprend surtout que l'intelligence, j'ai pas d'autres mots pour l'instant, mais l'intelligence, elle est générale. Voilà, l'intelligence, elle est cosmique, elle est grandiose, on n'en connaît pas les limites. Et l'homme qui pense être le seul être intelligent sur la planète, c'est un con, c'est un ignorant, quoi. C'est évident. L'intelligence, elle est partout, et c'est au moins ça que la nature m'a démontré à chaque instant. Quand on voit l'intelligence végétale ou animale, c'est fabuleux. Tous les animaux, tous les végétaux communiquent entre eux, tous. Depuis la bactérie jusqu'à l'éléphant ou la baleine, tout le monde communique, tout le monde sait que ses voisins ont un langage, ils en connaissent des bribes ou les nécessités. Et nous, on est là à nous faire chier avec Internet et tout ça, on n'arrive pas à se comprendre. Donc on n'est vraiment pas les plus intelligents de la planète. Thank you.
Dissonance
avec
Renaud d'Angreville
sur Radio Sainte-Afrique.
Il y a une phrase dans ton livre où tu évoques la liberté, la notion de la liberté qui n'est pas la même pour les animaux sauvages que pour l'homme.
Si elle est la même.
Ah, pardon, Renaud.
si c'est la, c'est la façon de le concevoir et de le vivre qui est différente. La liberté, c'est un truc qui est prenant tout le temps, depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est prenant. Il n'y a pas de blanc dans la liberté. Mais nous, on a dit que la liberté, c'était faire ce qu'on veut quand on veut. Et ça n'existe pas dans la nature. Donc c'est juste l'interprétation. Mais un homme libre, je pense à un berger, c'est un mec qui bosse tout le temps. Il est toujours avec ses bêtes. Et c'est un homme libre, c'est celui-là qui est libre. C'est-à-dire que chaque geste qu'il fait, c'est consciemment réfléchi, nécessaire, etc. Et voilà, c'est ça la liberté. Mais après, faire des clôtures, mettre les brebis dans un truc et d'aller danser au bal, c'est plus du tout de la liberté, ça. C'est autre chose, on trouvera d'autres mots, moi je ne veux pas les trouver.
Tu évoques ce berger, j'imagine que tu parles de ce berger, ton ami qui est sur le Cosmé-Jean, un des rares bouquins où tu te sois intéressé à l'homme.
Oui, à vrai dire, oui, je m'intéresse toujours à l'homme, oui. Oui.
Tu t'intéresses à l'homme à travers les animaux, à travers la nature.
Oui, parce que je vous ai parlé de la relation, par exemple, du renard ou des animaux, c'est sur un territoire. C'est stupide ce que je vais dire, mais ce territoire, il appartient à l'homme, alors que c'est faux, hein, c'est l'homme qui appartient au territoire. Mais on va pas rentrer là-dedans, c'est compliqué. Et c'est vaste. Mais je ne fais pas une photographie de renard sans son accord, mais sans l'accord du propriétaire terrien. J'ai besoin aussi de savoir qui il est et lui doit savoir qui je suis et ce que je fais. Donc partout où j'ai fait des photos de renards, j'ai de bonnes relations avec les paysans, bien sûr. Donc l'homme, il y est tout le temps, il est tout le temps présent. Donc voilà, j'ai fait ce livre sur le berger parce que c'est un homme intègre, c'est un homme libre, justement, c'est-à-dire qui est coincé dans sa vie et qui aime cette vie, malgré ce côté où il est pris tout le temps. Et tous les grands bergers, ceux qui faisaient les transhumances, etc., étaient comme ça, c'est-à-dire des bosseurs, des gars qui, même dans leur lit, dans la tête, ils ont le troupeau qui est là tout le temps. C'est ça, pour moi, c'est ça la liberté, et tous les animaux vivent cette liberté. Voilà. La planète, elle tourne, elle n'a pas envie d'aller au bal le soir. Elle continue à tourner, parce que c'est libre dans un cosmos.
Renaud, quelle a été la bascule, on a compris la bascule entre le chasseur et le photographe, mais la bascule entre le photographe et l'auteur qui publie ses photos et qui met ses impressions en texte. Pourquoi passer par l'édition?
Alors, parce que j'ai fait des photos, il s'est trouvé que j'ai fait des photos qui devaient intéresser du public. J'ai rencontré un mec qui m'a botté le cul. Et qui m'a dit, mais attends, faut les partager, tes photos. Et ce couillon, il a semé une graine. Et j'ai voulu que ces images puissent servir à quelque chose. Donc en diaporama, en livre, etc. En fait, j'invente rien. Un photographe, c'est pas Rembrandt. Hein. C'est que nous, on n'invente rien. On photographie. Je suis juste un reporter, un témoin de ce qui se passe, de ce qui est, et je trouve que c'est ça, le photographe, c'est un transmetteur de quelque chose. Ouais, on dit toujours l'œil du photographe, mais non, on ne photographie pas avec l'œil, c'est un objectif. L'œil, c'est une lentille, quoi. On photographie bien qu'avec le cœur, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on essaie, parce que j'y arrive jamais. On ressent, nous, on est sur le terrain. On est plein d'antennes, toutes les antennes sont sorties, et c'est de la sensibilité, c'est des ressentis, c'est des choses qu'on reçoit. Et on a des récepteurs qui sont ben, comme les animaux sauvages, on a des récepteurs. Et donc le photographe, il essaye de transmettre ce machin. Je crois qu'on n'y arrive jamais, mais au moins on essaye. Mais on photographie qu'avec ça, cette sensibilité. Pour parler de... C'est compliqué, mais pour parler de... Des antennes, je vous donne un exemple. Vous passez dans une rue où il y a 1000 personnes et au 8e étage d'un immeuble, il y a une personne qui vous fixe intensément. Je suis certain que votre regard se porte directement là. Donc, le jour où on saura définir ce genre de truc, peut-être je saurai définir ce qui se passe avec les animaux. Mais c'est toutes ces choses-là. Et un animal, un chien banal à la maison, son maître, il est à 1000 km, il est capable de le retrouver. Donc, il y a toutes ces relations dont on est... Aujourd'hui, on ne sait plus les analyser, on ne sait plus les faire. Et on photographie ce qu'on essaye de transmettre, c'est ça. C'est ça. Si vous voyez une photographie qui se passe quelque chose en vous, on a réussi un tout petit bout.
J'ai le souvenir qui me revient en t'entendant, Renaud, là, d'un séjour quelque part en Espagne où on était avec un garde forestier. Et à un moment, il te voit partir, on était tous les deux, le garde forestier et moi, il te voit partir vers un troupeau de chevaux sauvages. Et il me dit, mais il ne va pas arriver à les approcher, c'est pas possible. Et puis tu arrives à les approcher à quelques mètres. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais c'est pas un humain, c'est un animal.
Non, non. Ouais, non, c'est vrai. C'est... Oui, peut-être qu'au départ, il y a des choses que d'autres n'ont pas développées. Moi, j'ai eu la chance de vivre comme un petit renard dès le départ. Donc, j'ai gardé, je m'en rends compte, quand je suis un mois sans pouvoir aller dans la nature, le retour est difficile parce que, voilà, j'ai perdu un tout petit peu de ça. Donc, j'en veux pas aux gens qui perdent tout ça, mais... c'est vrai que la première fois que c'est arrivé, je devais avoir une dizaine d'années où j'ai pris conscience de ça. J'avais une dizaine d'années, on est allé au cirque et c'était une journée pour les enfants. Et il y avait un âne qu'il fallait monter dessus. Et à chaque fois qu'un gamin montait dessus... il était désarçonné, était viré instantanément, ça faisait beaucoup rire le public, donc ça c'était chouette. Et moi j'y suis allé, j'étais timide, mais j'y suis allé, voilà, je l'ai caressé sur le museau, j'ai monté l'âne, il m'a jamais désarçonné. Donc il s'était bien passé quelque chose. Je sais pas parler l'âne, même si je le suis encore, mais voilà, c'était ça, quoi. Donc l'approche des chevaux, ben c'est pareil, c'est cette relation que je cultive en permanence avec l'animal et avec le végétal, parce qu'il se passe des choses aussi. C'est avec la vie, c'est le rapport permanent de la vie à la vie. Voilà, aujourd'hui on bouffe un beefsteak, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Et ça c'est dommage.
Donc ce rapport que tu as avec les animaux, avec le monde végétal, tu l'as aussi avec les humains, tu arrives à sentir des choses. Si un éditeur est sérieux, si tu vas pas te faire gruger, si tu vas pas, par exemple, puisque tu es en contact avec ce monde-là.
Oui, non, je me fais gruger, oui. Et oui, parce que l'humain est quand même retors. Et moi, si j'approche un animal, je sais qu'il est pas retors, l'animal. Il a ses instincts, il a tout ce qu'on veut, mais il est pas retors. Tandis que l'humain, oui, je me fais piéger dedans. Oui. Non, non, l'humain cherche toujours le profit. Donc, oui, j'ai le profil bonne poire de ce côté-là. Donc, si je tombe sur un voyou, je vais me faire avoir dans les secondes qui suivent, quoi, oui.
J'ai navigué dans un piano, d'autres pirates me suivent dans l'eau. Chacun sa route, chacun sa trace, chacun ses flots. la mer est d'huile, le ciel part beau, le vent souffle à peine, je n'avance pas trop. Chacun sa route, chacun sa trace, chacun ses flots. Ma gueule de bois, ma gueule de veau, porte les traces de nuit sans repos. Chacun sa route, chacun sa trace, chacun ses flots. Chacun ses flots. J'ai reposé mon vieux piano en cale sèche pour quelques travaux. Chacun sa route, chacun sa trace, chacun ses flots. Je suis reposé comme tous les matelots entre les fesses de quelques travaux. Chacun sa route, chacun sa trace, chacun ses flots.
Dissonance
avec
Renaud d'Angreville.
Sur Radio Sainte-Afrique.
Donc, il y a eu d'abord Guetteur de vie, un livre qui est paru en quelle année?
Je crois que c'était en 95.
D'accord. Et après, il y en a eu sur l'Aubrac, sur le Causse.
Il y a eu le Causse.
Il y a eu le Causse.
Oui, ouais, voilà.
Le Causse, ouais.
Ouais. Donc, c'était la forêt d'Aubrac, déjà, pour Guetteur de vie. Il y a eu le Causse. Après, j'ai fait les photos d'un livre pour Conques. Puis ça a continué, l'eau, machin.
Et maintenant, ce dernier livre dont on va parler tout à l'heure, mais entre-temps, il y a eu des films, parce que tu as aussi fait des films, en tant que réalisateur, en tant qu'assistant, tu as participé à différents films.
Je suis rentré par hasard, c'est vraiment le hasard de la vie, dans le cinéma, avec Microcosmos, où j'étais assistant réalisateur. Je me suis aperçu que j'avais aussi un rapport, enfin l'animal avait un rapport avec moi, l'animal microscopique, tout petit, l'insecte, hein, j'avais toujours gardé une distance entre ces bestioles et moi, et en fait il n'y en a pas plus qu'avec les renards et les chevreuils, et donc voilà, ça c'est le côté positif. On a suivi ensuite avec le peuple migrateur, oui c'est des trucs, comment dire, c'est du cinéma, c'est particulier. Donc on fait de l'image, l'image pour l'image. C'est un spectacle, un film. Et c'est de l'image pour l'image, donc ce côté-là n'était pas satisfaisant pour moi. Moi, il me faut une relation avec la bestiole et sauvage, si possible. Mais sinon, oui, d'excellents souvenirs sur le peuple migrateur, souvenirs humains, parce qu'on était une sacrée équipe. Puis les animaux. Eh bien, c'est pareil, on a tissé des relations, et peut-être là où j'avais un rôle utile, sur l'intuition, sur la pensée qui essayent d'aller le plus proche de l'animal. Donc c'est les oiseaux, ça vole, ça peut foutre le camp tout le temps, et pourtant ils restent attachés à nous. Alors certes, des grands bonhommes, Conrad Lorenz et compagnie, étaient passés avant nous et avaient écrit des choses importantes. Donc ouais, c'est des grandes aventures. Enfin, le peuple migrateur, c'est une grande aventure, ouais. Ouais.
Oui, avec les hommes, mais avec les animaux. J'ai souvenir de toi avec des petites boîtes pellicules photo autour du cou qui te servaient à nourrir les fameuses oies qui après suivaient les ULM.
Oui.
Donc il y a eu ce rapport-là aussi avec l'animal.
Oui, oui, tout à fait. Moi, oui, en même temps, c'est, c'est un rapport artificiel que nous avons instauré. Et c'est là où je dis, il y a des grandes personnes qui sont passées avant nous. Moi, j'ai eu la charge d'hirondelles et ces oiseaux fragiles, etc. J'ai réussi à les élever. Mais en même temps, on ne peut pas tout changer. Il y a des animaux qui sont aptes à faire de l'image. C'est pas eux qui font l'image, mais il y a les animaux, c'est l'inné et l'acquis, toujours. Donc, on peut élever certains animaux, d'autres, on ne peut pas. C'est impossible. Jacques Perrin m'avait demandé cette folie. Et je voudrais qu'on fasse des coucous, qu'on élève des coucous. Ça lui dit, tu feras par qui tu voudras, mais moi non. Moi je ne suis pas Dieu, je ne peux pas changer les choses, on ne peut pas.
Dans le même ordre d'idées, j'ai souvenir d'une anecdote, si tu veux bien nous la rappeler, où tu devais faire voler des oies un matin sur les Alpes, et il faisait trop froid, c'est ça, non ? Un souhait du réalisateur que toi, proche de l'animal, savais que tu ne pouvais pas...
Oui, c'est là la différence entre le mec qui tente de connaître les animaux et le type qui veut seulement des images. C'est un chasseur, celui-là. Hein. Et pour faire un film, il faut des chasseurs aussi. Il faut des gens qui vont aller chercher les images. Mais s'il ne connaît pas un minimum de l'animal... Et la première chose, c'est le vent, ou au moins le sens du vent. Hein, tous les pilotes des avions le savent, c'est comme ça, on ne peut pas décoller autrement que vent de face. Et quand un preneur d'image ou un réalisateur dit « Mais non, 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 moi je veux que l'oiseau il décolle vent dans le cul, parce que c'est la bonne lumière, c'est le bon plan, etc. » C'est la catastrophe. Les animaux comprennent vite qu'ils vont être emmerdés, et ils se sauvent. Voilà. Donc c'est vrai, dans les Alpes, ils voulaient tous les oiseaux pour une première prise de vue, alors que les cinéastes n'avaient pas fait le minimum, c'est-à-dire la prise, se présenter aux animaux. C'est la première des choses. Hein, pour eux, c'était des machins qui volaient, qui devaient faire ce qu'ils avaient envie de faire. Mais pas du tout. Il faut se présenter aux animaux, il faut leur parler, il faut... Peut-être nettoyer les cages pendant 2 jours, mais il y a un rapport minimum. Et le premier vol, donc j'ai dit, moi je vous en prête que 3. 3 oiseaux, eux ils voulaient tout de suite de gros groupes, machin. 3 oiseaux, et j'ai dit, je veux qu'on mette un émetteur sur l'oiseau, fixé aux plumes. Si on le perd, on le perd. Donc s'il y a un émetteur, on peut peut-être les retrouver. Et ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que j'ai filé 3 oiseaux, ils connaissaient personne dans la bande, à part nous, à part les éleveurs, et ils se sont barrés, parce que c'était dans la neige, c'était à 3000 mètres d'altitude, en hiver, et les oiseaux avaient bien vu qu'il y avait un lac en bas avec de l'herbe autour. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre la pensée de l'oiseau. Ils se sont barrés immédiatement. On a passé 2 jours en hélicoptère, etc., à chercher les oiseaux. Et on n'a rien ramené cette année-là. On n'a pas ramené d'image. Il a fallu attendre l'année d'après, remettre quelqu'un sur l'élevage d'un groupe. Et je crois que sur les 4 ans passés, en plus, j'ai jamais réussi à persuader les preneurs d'images qu'il fallait un rapport avec les oiseaux pour obtenir quelque chose, quoi. J'ai pas réussi ça. Mais on leur a amené de belles images. Je pense que Le peuple migrateur est un beau film. Jacques Perrin, c'est un chat, c'est-à-dire qu'on peut le jeter en l'air, tombe toujours sur ses pattes Et il s'est entouré d'un million de gens pour faire ses images. Et il a eu les images qu'il voulait, je pense, globalement.
Mais toi, à titre personnel, tu as aussi réalisé des films.
Oui, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Oui, oui. Oui, parce que c'est beaucoup dire. Oui. Non, c'est des reportages. C'est des reportages. Bon, je crois que on a envie de transmettre des choses, donc sur le berger, et puis sur les quatre saisons d'Aubrac, parce que l'Aubrac, c'est quand même une terre un petit peu particulière, qui a un caractère, qui a du vent, qui a de la neige, etc. Donc oui, j'ai fait ces films, mais bon, on va pas parler de trucs qui fâchent. Bon, enfin, le berger, c'est pas fini encore.
Je veux pas vivre vieux, plein d'admiratrices, même pas être heureux. Non, je veux juste tenir ta main. Tenir ta main éternellement. Je regarde la télé d'un œil et de l'autre je pense à toi. Ce sera comme ça jusqu'au cercueil. Même si j'ai la foi, j'aimerais actrice se souvienne de moi, mais je veux juste tenir ta main éternellement, éternellement. Oui, je veux juste tenir ta main éternellement. J'irai pas à San Francisco, ça ferait du mal.
Dissonance
avec
Renaud d'Angreville
sur Radio Sainte-Afrique.
Et maintenant, il y a ce livre qui vient de sortir aux éditions Fleurine qui s'appelle Souffle d'Aubrac, la magie de tes photos et puis la musique de tes mots. Et c'est la première fois, enfin, c'est une des premières fois où je ne retrouve pas la signature de Colette Gouvion à tes côtés.
Oui, oui, je suis obligé de parler de Colette d'abord parce que sur l'écrit, c'est elle qui m'a mis. Le pied à l'étrier, quoi. Oui, Colette Gouvion, c'est une grande dame, une très grande dame, parce que elle a aidé beaucoup de gens comme moi, qui sont pas écrivains, à passer un certain cap. C'est comment dire, je lui avais témoigné ça, que c'était le tronc d'un arbre qui portait toute la responsabilité de la ramure, etc. Colette, c'était le tronc, quoi. Le chien qui va pisser sur le tronc, peu importe, ça, elle passait au-delà de tout. Elle a été amie avec plein de gens, avec Brel, Brassens, Simone Veil, etc. Enfin, des personnes qu'on nomme grandes, hein, alors que ça n'existe pas, hein, des grands. Ça aussi. Je me rappelle d'une phrase qu'elle m'avait dite. Elle m'a dit « Toutes les femmes de ménage du monde entier savent qu'il n'y a pas de grands hommes. Ouais, » ça veut dire beaucoup de choses. Bon. Et c'est ça, Colette, une culture extraordinaire qui ne l'étalait jamais, hein, pas comme la confiture sur la tartine. Voilà, c'était ma grande sœur de cœur, quoi, avant d'écriture. Donc je lui filais tous mes textes, donc le désordre parfait, et comme le prestidigitateur, elle jetait tout ça en l'air, et ce qui retombait, c'était dans l'ordre. Bon voilà, c'était ça, Colette. Et puis voilà, et bon, elle fumait, et puis collait, elle vivait, elle a envie de vivre. Donc on devait lui couper les pieds à l'hôpital, elle a demandé la permission du week-end, elle a fumé, elle s'est noyée dans l'alcool et elle est morte comme ça, quoi. Elle m'avait appelé deux jours avant en me disant « Ben écoute, si tu veux pas venir à Paris, je vais venir en Lozère. » Et c'était déjà pour le livre d'aujourd'hui, quoi. Voilà, elle avait vraiment envie de le faire, et en fait, c'était sa façon à elle de me dire au revoir, allez, continue, quoi. Prends le bâton et écris toi-même, quoi.
Dissonance
avec
Renaud d'Angreville
sur Radio Saint-Afrique.
Souffle d'Aubrac est édité aux éditions Fleurine. Alors après être passé par les éditions du Rouergue, Flammarion, maintenant les éditions Fleurine, c'est une petite maison d'édition, mais c'est un de tes livres où vraiment tu étais le plus impliqué.
Oui, je me suis impliqué tout autant dans tous les autres livres. Mais après, les grandes maisons d'édition font leurs livres. Ils partent d'un principe. Eux seuls savent ce que le lecteur attend. Je ne contredis pas, parce que moi je ne le sais pas. Mais ils partent de ce principe. Mais par contre, ils ne respectent pas l'idée de l'auteur, qui est quand même la base. Donc, effectivement, chez Fleurine, j'ai trouvé un éditeur qui respecte totalement l'idée que je veux transmettre. L'idée que j'ai voulu transmettre dans Souffle d'Aubrac, ayant tout conçu dedans, dans ce livre, ce que je voulais dire, qui est succinct, hein, c'est pas un texte de prix Goncourt, pas du tout, ni les images fulgurantes de Géo, mais je voulais qu'il soit...
Elles sont mieux. Elles sont mieux que Géo. Et...
Non. Voilà. Non, c'est pas. Oui, enfin, c'est pas ma vision. Je ne dois pas. Moi, c'est des images intérieures. C'est-à-dire qu'il s'est produit des choses. Moi, je suis pas allé voler les images, voler ou j'en sais rien. On va pas faire du commerce là. Non, moi, c'est un rapport que j'ai avec la nature. Donc ça, je le voulais, je l'ai, j'ai la chance de l'avoir. Et les textes vont avec, ils vont bien avec l'Aubrac, c'est une terre sobre, peut-être que c'est peut-être aride parfois, j'en sais rien, sur les textes, que pas non plus, il n'y a pas beaucoup de textes, il y a juste ce que je voulais dire sur la nature et les rapports qu'on a avec. Et puis le titre, j'ai trouvé que souffle, oui, ça voulait dire ça, quoi, c'est l'haleine, c'est ce qui n'est pas parole, justement. Et ça allait bien avec Souffle, ça allait bien avec l'Aubrac, ou la vision que j'ai de l'Aubrac. Voilà. Et l'éditeur a trouvé que c'était très bien. Parce que lui aussi était à contribution pour trouver un titre. Et bon, voilà.
Dissonance.
Sur Radio Saint-Afrique.
Philippe Galmich, responsable des éditions Fleurine avec Nathalie. Ouais. Pourquoi tu as choisi d'éditer ce livre Souffle d'Aubrac de Renaud d'Angreville ?
C'est pas nous qui avons choisi d'appeler Renaud, mais c'est lui qui nous a contactés pour publier son livre Souffle d'Aubrac. J'ai été assez étonné parce que je me suis dit, mais attends, il nous appelle, nous, petite maison d'édition. Et je lui ai dit, mais Renaud, vous avez dû vous tromper, on n'est pas les éditions du Rouergue ou les éditions La Martinière. Et il m'a dit, non, je veux vraiment travailler avec une petite maison d'édition comme la vôtre. Alors j'ai été surpris, mais surtout enthousiaste de publier un livre de Renaud d'Angreville. Alors c'est une rencontre exceptionnelle parce que quand il m'a contacté, il m'a dit voilà, j'aimerais un livre, notamment sur le renard, où le renard serait le fil conducteur du livre. Et il m'a invité chez lui, il nous a invités, on y était avec Nathalie, il nous a présenté ses photos. Et moi, je voyais surtout des photos de paysages. Je dis, mais Renaud, c'est fabuleux, c'est fantastique. C'est de très beaux paysages. Mais souvent, le renard était présent. Et c'est ça qui est beau, quoi. Le renard est le fil conducteur. mais au milieu de superbes paysages de l'Aubrac. Et souvent, quelquefois, on va chercher le renard. Dès que tu ouvres le livre, dès la première double page, un superbe paysage, et en petit, tu as le renard qui arrive tout doucement. Le renard est vraiment le fil conducteur. Et Renaud a réussi à s'approcher doucement, doucement du renard. Il en a fait d'ailleurs ses copains, hein, dans le livre. Tu verras qu'il y a personnage, qu'il y a blonde. Il les a apprivoisés, quoi. Joseph, moi, ce que j'ai apprécié, c'est surtout les photos, j'allais dire, de renard, de Renaud, des photos qui sont authentiques et naturelles. Je m'explique. Souvent, quand on reçoit des photos, l'auteur, le photographe, a retouché un peu les photos, a rehaussé un peu la couleur. Là, rien du tout. Pourtant, j'ai dit à Renaud, mais on va peut-être mettre davantage de couleurs. Il m'a dit, non, surtout pas. On est proche de la nature. On a des couleurs naturelles. On ne touche rien. Parce que pour être vraiment proche de la nature, proche du silence de l'Aubrac. Voilà. Et ça, j'ai été touché par ça. J'ai trouvé beaucoup d'humilité dans le personnage de Renaud. Beaucoup d'humilité parce que, ben déjà, il faut en avoir pour s'approcher du renard, comme il a fait. Et puis, on y trouve la paix. Si tu regardes bien, on va y trouver cette paix, je dirais même plus que de la paix, de la joie, ce que j'appelle moi la joie de l'humilité. C'est vraiment cette paix qu'on va retrouver quand on est proche de la nature, quand on est dans le silence, et de retrouver l'essentiel. Ça qui est beau.
Ce livre souffle d'Aubrac, ce sont des animaux, des renards entre autres, qui vont nous faire découvrir la géographie de ce plateau, les saisons, les couleurs, les bruits, les musiques de l'Aubrac. Ça aurait pu être le loup aussi.
Oui, bien sûr, mais c'est pareil, c'est un prédateur. Le renard est un prédateur de rongeurs. Alors, le rongeur a toujours été la bête noire de l'humain. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, que je continue à dire qu'on n'a pas à tuer un animal qui s'occupe complètement des rongeurs, qui en garde la petite quantité. Aucun prédateur n'a éliminé ses proies, heureusement. Mais c'est ce qu'on appelle l'équilibre, hein, c'est ce qu'on ne sait plus aujourd'hui, hein, on ne sait plus ce que c'est l'équilibre. Et le loup, ben, c'est la même chose. On sait que sur la Lozère, que j'habite et que j'aime, les chasseurs tuent 8000 chevreuils dans l'année, 10000 sangliers dans l'année, je parle. Si là-dessus, on en laissait au moins un tiers, le loup pourrait et vivre et survivre et ne pas attaquer les brebis. Donc vous voyez, toujours dans cet équilibre, quoi. Le loup, il a sa place. Pour moi, il a sa place dans la nature. Voilà.
C'est une histoire d'équilibre et de partage, donc, de l'espace entre l'animal sauvage et l'homme.
Oui, oui. Qui sera le partage avec le loup a toujours été conflictuel, toujours, parce que bon, il devait manger les proies que chassaient les hommes à l'époque, et on en est toujours là. Mais en même temps, le conflit, c'est pas la guerre. Le conflit, c'est quelque chose qui se gère, qui se raisonne, et puis c'est un partage. Le conflit, c'est un partage d'idées, un partage de viande, un partage de territoire. Toujours un partage, le conflit. Faut pas le prendre comme la guerre, quoi. C'est différent.
Qu'est-ce que tu attends de ce livre, Renaud ?
Oui, c'est compliqué, parce que d'abord, j'attends rien de ce livre. Attendre, c'est perdre du temps. Donc, non, j'attends rien. En fait, un livre, les autres livres...
Attendre, c'est perdre du temps. Tu te rends compte le nombre de fois que tu as attendu avant de faire une photo?
Ah, mais j'ai pas perdu une seconde.
Alors, ouais.
Oui, ça paraît énorme, oui. Quand je dis, ah ouais, pour cette photo, j'y suis allé 12 fois, à chaque fois, j'ai attendu 3 heures.
Mais tu n'as pas perdu une seconde.
Non, j'ai pas perdu une seconde, voilà. Non, c'est ça la chose. Les gens me disent, quelle patience, quel truc. Mais pas du tout. C'est que il y a tout à voir, il y a tout à ressentir. Et ça, c'est énorme, c'est très intense. Même le silence, c'est très intense, ça paraît bizarre quand on dit ça. Et je pense que tous les chasseurs-cueilleurs le savaient, aujourd'hui on ne le sait plus ça, mais l'attente de quelque chose, d'abord parce qu'on doit émettre, on a une émission qui se fait, et quand, pour revenir au renard, puisque c'est un petit peu le sujet du livre, quand le renard il se présente, il sait déjà que je suis là, et il sait qui je suis, et qui je suis là. Ça veut dire que les 3 heures que je viens d'attendre, il s'est passé 1000 choses, et j'ai tenté de les capter, ces 1000 choses. Et il y a des oiseaux qui sont passés, il y a le vent qui est passé, il y a les lumières qui sont passées, l'averse, la grêle, la neige, il y a tout ça qui est passé. Et évidemment, si je dis c'était merveilleux, quoi, les flocons sont passés, c'est merveilleux, c'était intense de toute façon. Donc il n'y a pas eu une seconde de perdu. Et si, parce que ça m'est arrivé aussi dans ma vie, d'être à l'affût, et de penser ce que j'allais faire à manger ou les emmerdes que j'avais dans ma famille, là j'ai perdu du temps parce que j'étais décalé par rapport à une situation. J'étais pas dans la nature, j'étais dans autre chose. Et là il s'est rien passé. Là j'ai pas fait de photo. J'étais incapable de faire la photo. Compliqué, hein.
Ce livre Souffle d'Aubrac, ça m'a permis de prendre du temps.
Ouais. Ben, c'est ce qu'on espère, et je pense tous ceux qui font des livres, soit on le fait pour se monter sur un piédestal, et je pense que là on a tout perdu, mais si on peut transmettre quelque chose, transmettre une réflexion, un moment, on a au moins ça, quoi. On a au moins réussi quelque chose en transmettant par ce livre.
Merci Renaud.
Merci à toi, Joseph.
Vous trouverez sur le site internet de Radio Sainte-Afrique des informations qui complètent notre émission, notamment la liste des ouvrages de Renaud d'Angreville, ainsi que le catalogue des éditions Fleurine.
Souffle d'Aubrac, son dernier ouvrage publié aux éditions Fleurine, est disponible dans toutes les bonnes librairies de France.
Cette émission sera rediffusée mercredi 23 mai à 14h et samedi 26 mai à 16h. Salut
et fraternité.